Bienvenue sur le Pups, présenté par la Dessup.
C'est Philippe et Alma, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 du Pups.
Cette semaine, on va commencer par écouter Simon et William qui vont vous présenter leur projet à deux super en forme.
Ensuite, on écoutera l'émission spéciale de la semaine qui aura pour thème les nouvelles technologies et leurs dangers.
Enfin, on écoutera le témoignage de deux étudiantes actuellement en maïeutique qui vous parleront de leur filière.
Sinon, on est en train de vous préparer un deuxième café Pups, on vous tient au courant pour la date.
On est prêt à commencer, c'est parti! On vous conseille de bien rester jusqu'au bout.
Bonjour, je suis Simon, je suis respo à deux super en forme avec William. A2SuperInforme, c'est quoi? C'est un projet qui vise à vous faire refaire du sport après une P1 où vous avez peut-être plus fait de sport, perdu du muscle, gagné du gras. Et le but, évidemment, c'est pas de faire de vous des machines de guerre, mais plutôt juste de vous faire sentir mieux dans votre corps et de vous réhabituer un petit peu à faire un minimum de sport après avoir fait que du sport intellectuel pendant la P1.
Donc, dans A2SuperInforme, qu'est-ce qu'on va proposer? On va proposer des fiches qui vont sortir tous les mercredis. Et sur cette fiche, qu'est-ce que vous allez retrouver? Ce sont des fiches avec des exercices qui ont été tirés en fait d'un programme que j'avais fait moi du lycée. Et du coup, ça nous permet en fait d'avoir une fiche assez quali.
Alors, une petite anecdote sur A2SuperInforme, c'est qu'on a lancé le projet avec William. Et 3 jours après, je me suis cassé le pied, ce qui m'empêche de faire du sport pendant encore un mois et depuis un mois. Du coup, rip.
On pense aussi faire une petite sortie des familles tous ensemble pour du coup une petite rencontre sportive donc entre nous et vous. Donc je crois que la prochaine sortie se fera sûrement au parc du Luxembourg s'il fait beau. Si vous n'aimez pas trop le sport, vous pouvez quand même venir. Hein, vraiment, on veut partager un petit moment même si vous kiffez pas ça. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous sur vos glutéos qui sont un maximum sculptés. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle fiche ou alors une petite rencontre sportive.
Merci à vous deux, on passe à l'émission spéciale sur les nouvelles technologies. Cette émission est composée de 2 parties, une première sur l'impact du distanciel sur les cours à la fac et la deuxième sur les problèmes que pose la collecte de données.
Avec le Covid, la fac s'est adaptée au distanciel avec les cours enregistrés et de plus en plus de contenu en ligne. Par exemple, en deuxième année de médecine, on a eu plusieurs UE entièrement sous forme de vidéos en ligne. On a parlé de l'impact de ces mesures avec les payants.
Ce qui est bien avec le distanciel, c'est que ça nous permet d'avoir une certaine égalité par rapport au, par exemple, à la distance de la fac. Ça permet à des personnes qui ont, par exemple, des handicaps moteurs à tout hasard, de pouvoir suivre de chez eux sans que ce soit trop grave, trop chiant de se déplacer.
Tu peux regarder quand est-ce que tu veux, tu peux mettre en x2 et tout. Perso, j'aime bien le fait qu'ils peuvent enregistrer les cours, parce que ça, c'est stylé au cas où si un jour tu peux pas y aller et qu'il faut revoir ou il y a un prof qui parle vraiment de manière très très lente.
On voit bien que le distanciel présente des avantages, notamment pour permettre à des personnes habitant loin d'éviter les transports. Cependant, le distanciel a aussi ses inconvénients, notamment celui lié à l'isolement des étudiants.
On perd la partie sociale de la fac, à part si on est sur des serveurs Discord et tout, mais c'est assez triste, parce que y a plein d'étudiants qui finissent assez isolés.
Le distanciel ne permet pas non plus d'être forcément adapté d'un point de vue pédagogique.
Et du coup, je trouvais que le distanciel, c'était bien et tout pour l'égalité, tout ça. Mais que ça restait quand même compliqué pour certains d'un point de vue pédagogique. Par exemple, puisqu'il n'y a pas de barrière entre « Ah oui, là, je suis dans un amphi, je travaille, je suis concentré et tout, on est chez soi. » Et ça peut être compliqué de suivre aussi bien qu'en amphi, je trouve.
Quand j'étais en hybride, j'ai détesté ça. Tous les cours que j'ai fait en distanciel, j'en retiens presque aucune diapo, alors que l'ambiance de l'amphi, ça m'a vraiment permis de pouvoir retenir les notions.
On retiendra donc que l'idéal semble être d'avoir le choix entre le présentiel et le distanciel. Une autre question que posent les nouvelles technologies est la collecte de données pour faire marcher la publicité ciblée.
Dans le film Snowden, on suit un informaticien américain qui travaille pour les services secrets et qui décide de dévoiler au monde entier l'utilisation des données collectées par la NSA.
NSA is really tracking every cell phone in the world.
Ce film est inspiré du personnage réel d'Edward Snowden, et pour l'avoir vu, je trouve qu'il est hyper utile pour se rendre compte de qu'est-ce que c'est que la collecte de données et comment ça influe nos vies personnelles.
Are they watching us?
Voici ce qu'en pensent les P1.
Par rapport à la collecte de données, je suis assez mitigée. D'une part, c'est bien puisque ça permet l'accessibilité et la gratuité de certains sites. Je pense aux journaux. Mais d'autre part, il faut aussi garder à l'esprit que c'est la façon dont ces données sont traitées n'est pas forcément éthique et qu'on est au-delà de rendre des sites accessibles et gratuits. Parfois, c'est des données qui sont vendues sans le consentement des utilisateurs. Et j'invite les gens à chercher des scandales avec Facebook, de chercher le scandale avec Cambridge Analytica, plus précisément. Et c'est un exemple super pertinent de comment est-ce que nos données sont utilisées sans notre consentement et pas forcément pour la bonne cause.
Du coup, j'ai un pote qui s'appelle Thomas et qui est actuellement en école d'ingénieur au Canada. Et je me souviens qu'il y a 2 ans, pendant le confinement, j'avais pas mal discuté avec lui parce qu'il avait décidé de se couper complètement de toutes les plateformes qui permettent de collecter des données. On allait lui parler et il nous a donné un peu son avis et son ressenti de pourquoi il avait fait ça et comment est-ce qu'il le vivait maintenant de vivre comme ça en essayant de trouver des moyens alternatifs pour accéder à Internet.
Moi, je m'appelle Thomas, je suis étudiant en ingénierie et aujourd'hui, je vais vous parler du coup de comment j'utilise l'informatique au quotidien.
Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as choisi de changer ta manière d'utiliser l'informatique ?
Ça a commencé en février 2020. J'ai vu le film d'Edward Snowden. Et en fait, du coup, ça m'a posé des questions. Je m'étais jamais posé la question sur comment j'utilisais Internet, en fait, vu que c'est quelque chose d'assez récent. Tout le monde utilise Gmail, Google, des choses comme ça, Windows. Et je me suis jamais posé la question sur comment utiliser ça. La raison pour laquelle j'ai changé, c'est que, par exemple, WhatsApp, Gmail, Google, tout ça, c'est des services gratuits. Mais on ne sait pas en fait comment ils gagnent leur argent, en fait leur rémunération. On comprend rapidement que c'est un peu toi qui les fait rémunérer en vendant tes données. J'ai pu me chercher plein, ça a pris beaucoup de temps, mais d'alternatives, donc à la place de Windows, passer sous Linux. À la place de Gmail, trouver un autre service de mail. Pareil pour le moteur de recherche avec Firefox et en fait pour plein d'applications qui, en fait, quand tu es sur Windows, tu es un peu dépendant de toutes ces applications simples.
Est-ce que ce changement, il a été difficile à réaliser pour toi ?
J'ai trouvé aussi par ce changement qu'en fait c'était vraiment mieux, limite d'un point de vue informatique. Et en fait, quand je compare Windows à Linux, c'est même pas que par valeur, mais juste je trouve que Linux est mieux fait, en fait c'est fait par des personnes qui ont connaissance en informatique. C'est quelque chose qui est aussi utilisé pour les ordinateurs des sexagénaires. Donc c'est quelque chose d'assez facile à prendre en main, je dirais. Au début, par contre, ça a été dur. Par exemple, quand j'ai changé d'adresse mail, le fait que j'ai pas une adresse Gmail, il y a personne qui buguait, quoi. Ils savaient pas comment c'était possible de pas avoir une adresse Gmail ou un truc comme ça. Donc en fait, c'était plus le manque de connaissances au niveau informatique des autres personnes qui était problématique. C'est sûr que c'est pas simple pour essayer de rester là-dedans. C'est pas compliqué d'y aller, mais c'est pas simple d'y rester, je dirais.
Est-ce que tu peux parler des alternatives que tu utilises et que tu conseillerais à quelqu'un qui veut adopter le même mode de vie que toi ?
Bah déjà, là, nous, on parle, on est sur Signal. Donc, Signal, c'est d'ailleurs qui a été recommandé par Edward Snowden. Donc, il y a une messagerie, pareil, qui passe, qui est open source, qui fonctionne sur la base des dons. Sinon, moi, j'utilise ProtonMail pour tout ce qui est service de mail, qui est basé en Suisse. Et qui est créé par des anciens personnes de la NSA d'ailleurs. Google Maps, mon alternative, c'est HereWeGo. Pareil, tu peux trouver ton itinéraire facilement et pareil, ça passe pas par Google et ces services-là.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On passe à la partie témoignages.
Camille et Lisa sont toutes les deux en deuxième année de maïeutique, qu'elles appellent aussi SMA2, à l'école Baudeloc. Elles vont vous présenter leur filière.
Du coup, moi, c'est Camille. Au lycée, j'étais en filière scientifique. J'ai eu mon bac SSVT il y a 2 ans. Ensuite, j'ai fait une P1, du coup, à l'UP. Et maintenant, je suis en deuxième année de sage-femme.
Coucou les P1, c'est Lisa, votre RM de SP Bayeux. Et moi, j'ai passé un bac SSVT. Après, j'ai fait un pass. Et aujourd'hui, je suis en deuxième année de Bayeux.
Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez choisi la filière maïeutique après votre pass ?
Donc moi c'est ce que je voulais faire depuis mes 8 ans, donc le choix semblait plus ou moins évident et puis c'est chose faite du coup.
Pour le coup c'était un petit peu moins évident pour moi, au début quand je suis arrivée en PASS c'était vraiment médecine et rien d'autre. Et puis j'ai eu des résultats pas bons au premier semestre et puis j'ai voulu être curieuse et voir un peu ce que les autres spécialités pouvaient me donner et la maïeutique, je suis totalement tombée amoureuse de cette spé. Et j'ai voulu en découvrir encore plus, et plus j'en découvrais, plus j'avais envie de faire ça.
Est-ce que vous pouvez présenter le déroulé général des études de maïeutique ?
Du coup, pour les années de maïeutique, donc, la première année, c'est un PASS, ou une LAS, du coup. Ensuite, on enchaîne sur 4 ans, encore cette année et l'année prochaine, donc ça fait 5 ans au total. Pour les cours et les stages, du coup, c'est très école dépendant, mais par exemple, à Baudeloc, en SMA 2, on a 3 maths stages, et le reste, c'est des cours qui sont obligatoires, avec des TD qui sont aussi obligatoires, et beaucoup de TP aussi obligatoires, mais ceux-là, ils sont vraiment très très chouettes, parce que du coup, on apprend
beaucoup. Ensuite, en fonction des années, on augmente les temps de stage. Donc, par exemple, en SMA 3, on a 20 semaines, un peu plus de 20 semaines. Et ensuite, on passe à 5 et 6 mois, respectivement en SMA 4 et SMA 5. Et en SMA 5, on a 12 semaines de stage intégré pour savoir ce qu'on veut faire plus tard.
Est-ce que tu peux parler un peu de l'ambiance qu'il y a dans votre promo de SMA 2 ?
Du coup, l'ambiance, bah, nous, on n'est pas nombreux. On est 39 dans la promo. Donc après, c'est très vague dépendant, mais c'est vrai que ça reste des petites promos à chaque fois. C'est très sympa parce que du coup, tout le monde se connaît, que ce soit à la fois dans la promo, mais aussi sur toute l'école entière. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a un vrai esprit d'équipe et de cohésion. Et on fait plein de choses ensemble, ce qui est vraiment très, très chouette.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la filière maïeutique ?
Moi, j'étais en salle de naissance, du coup, il y a quelques semaines encore. Et du coup, bah, c'est exactement ce que je voulais faire. C'était absolument génial parce qu'on se voit, enfin, on se rend compte à quel point on est utile dans le sens où on aide et on accompagne, surtout les mamans, mais aussi parfois les papas quand ils sont très très stressés. Et en fait, on se rend compte de l'aspect relationnel qui parfois peut manquer dans certains métiers. Et en fait, c'est une part genre super importante. Et on a aussi un petit peu de psychologie dans le sens où on est à l'écoute, où on est une oreille attentive. En fait, c'est quelque chose qui comptait énormément pour moi. Et je pense aussi que c'est le métier de l'avenir, on va dire, parce qu'on a de plus en plus de réformes qui se font, on a de plus en plus de compétences, on a de plus en plus de choses qu'on peut réaliser. Et puis surtout, en fait, il y a plein de nouvelles problématiques qui se posent et qu'on se pose aussi en maïeutique, notamment tout ce qui va être le féminisme ou les violences conjugales ou des choses comme ça, quoi. Et en fait, en tant que sage-femme, on peut les prendre en charge et on peut aussi apporter notre petite pierre à l'édifice en plus des autres métiers qui peuvent prendre en charge ce genre de problème.
Je dirais que quand on hésite entre médecine et maïeu, moi j'avoue que c'est pas vraiment la longueur des études qui m'a fait me décider. C'est aussi parce que j'ai trouvé ça absolument passionnant. En embryo, on a un peu tout en détail. Et c'est là vraiment qu'on se rend compte qu'à partir d'une cellule, une unique cellule, on forme tout un être vivant. Et c'est absolument magique. On a parfois des clichés comme quoi on ne peut pas exercer en libéral. J'avoue qu'au début, quand je me suis dit que maïeu, je préférais plus, je me suis dit que c'est dommage parce que je rêvais d'avoir un cabinet. Et quand j'ai appris que en sage-femme, en fait, on pouvait être en libéral aussi, ça m'a fait vraiment me décider. Parce que finalement, on n'est pas gynéco, mais on a quand même beaucoup de choses en commun avec eux.
Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter pour finir le témoignage ?
Du coup, c'était mon premier stage en salle de naissance et à un moment, c'était le cas me plat. Et du coup, j'ai décidé d'aller aider aux urgences qui étaient juste à côté. Donc, je vois arriver une dame avec son mari et elle tenait un petit gobelet dedans. Donc, j'attrape, il est encore chaud et on les installe en salle de consultation. Une fois que tout le monde est installé, je rends à la dame son gobelet de thé, parce qu'en fait, il s'avère que c'était pas du thé, mais son pipi pour la bandelette urinaire. Et elle m'a vraiment regardée en me disant... Ah non, en fait, c'est pas pour boire, quoi.
Et moi, parce que j'étais en suite de couche il n'y a pas longtemps, et ce qui m'a rendue le plus fière dans mon stage, c'est que j'ai pu suivre une conseillère en allaitement. Et quand il y a une maman pour la première fois qui est arrivée dans le service, je suis allée la voir, je l'ai examinée, et je lui ai demandé si elle voulait allaiter, et j'ai pu lui parler, la rassurer, lui expliquer plein de choses. Et j'ai vu dans ses yeux qu'elle était rassurée. Et moi qui n'ai même pas 20 ans, j'arrive à quand même donner des conseils et que ce soit utile. Et j'ai trouvé ça très très beau.
Merci à Camille et Lisa pour leur témoignage.
On aimerait maintenant essayer avec vous un nouveau format. L'idée, c'est qu'on vous raconte le début d'une blague et que vous nous envoyez la suite à l'écrit ou sous forme d'audio par mail, toujours à pubs.adessup@gmail.com.
Celui qui nous enverra la réponse la plus originale et drôle gagnera un welcome pack de l'année dernière. C'est parti! Qu'est-ce qui est solide le matin, liquide le midi et à l'état de gaz le soir?
C'est la fin de l'épisode 7. Avant de finir l'épisode, on aimerait dire un petit mot à Irène.
On voulait juste te dire merci de nous avoir aidé à concevoir tous les épisodes du PUPS jusqu'à maintenant.
C'était trop cool de t'avoir à nos côtés.
On souhaite au PASS et au LAS de bonnes révisions pour ceux qui passent les examens bientôt.
Un grand merci d'avoir écouté l'épisode 7 jusqu'au bout et on se dit à très bientôt pour l'épisode 8 du PUPS.